France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, nous recevons une artiste qui incarne parfaitement ce mélange d'énergie et de sensibilité qu'on aime ici, Camille Yembe. Chanteuse, autrice, performeuse, elle trace sa route avec une voix qui accroche immédiatement entre éclats de soul, groove contagieux et une sincérité qui la rend unique. Camille Yembe, c'est une personnalité solaire mais aussi une artiste exigeante qui travaille chaque morceau comme une scène à part entière. Elle avance avec un style qui ne ressemble qu'à elle et qui attire de plus en plus d'oreilles attentives. On va parler de son parcours, de ses inspirations, de ses envies pour la suite et bien sûr, on va écouter sa musique. Camille Yembe est notre invitée ce soir. Bienvenue dans À la Régulière.
France Inter. À la Régulière. Mehdi Maizi.
Bonsoir Camille.
Hello.
Comment ça va?
Au top. Et toi?
Très bien. Très heureux que tu sois là.
Moi aussi, je suis trop heureuse d'être là.
J'ai tellement entendu parler de toi ces derniers mois.
Tant mieux.
Oui, en bien. Uniquement en bien. C'est bizarre, okay. Ça. Il y a que des gens qui t'aiment.
C'est chelou, c'est chelou. Ils ont pas bien creusé.
Tu vis ces derniers mois, justement, parce que, on va revenir sur ça, mais depuis, évidemment, Plastique, le morceau et le EP, effectivement, il y a de plus en plus de médias qui s'intéressent à toi, de gens qui te suivent, de gens qui ont des projections sur toi. Comment tu vis ce moment qui est particulier dans une carrière, ce moment où tout change, ouais. En fait, tout bascule.
Ouais, j'avoue. Comment je le vis? En vrai, je me dis beaucoup enfin, tu vois. Donc, ouais. En fait, je t'avoue que je suis un peu prête pour ça. Je me sens grave prête, tu vois. Ouais. Et puis, je chéris aussi beaucoup ce moment un petit peu où, en fait, ouais, les gens s'intéressent, mais à la fois, ça n'a pas encore totalement... ça a pas pété, quoi. Mmh. Donc, t'es un peu dans un entre-deux comme ça, mais qui, je sais, va me manquer. Tu vois, parce que je suis dans une situation que j'appelle d'inconfortable, dans le sens où tu fais du son, les gens t'ont pas remarqué, mais il faut encore que ça prenne. Mmh. Donc c'est une sensation qui peut être déstabilisante, mais qui, je pense, quand t'arrives loin dans ta carrière, tu te dis putain, j'aimerais trop revenir à ce moment-là. Tu vois, donc je suis en mode
je
chéris.
Carrière,
voilà,
ça,
exactement. Ouais. Donc je chéris ce moment.
Tu fais de la musique depuis longtemps, tu l'as dit, hein, tu dis il est temps. C'est quoi ton premier contact avec la musique? Est-ce que tu arrives à te souvenir de ton premier rapport?
C'est très très dur, je t'avoue, parce qu'on pose tout le temps la question et du coup j'y pense tout le temps.
Ouais.
Mais l'un de mes premiers rapports, c'est quand même, je pense, en fait ma maman quand même, parce qu'elle elle était très passionnée de musique, de manière très populaire et non intellectuelle, si oui. Je puis dire, tu vois, c'était un peu genre, juste elle kiffait faire des karaokés.
Elle écoutait beaucoup de musique.
De musique de radio, tu vois, sans être une qui va connaître des trucs
oui,
précis et tout, tu vois.
Je savais pas qui avait produit forcément.
Voilà,
lumière, cas,
mais il y avait cet amour-là de la musique, et donc je pense qu'elle m'a un peu emmenée avec elle, et ouais, j'avais très tôt une grande sensibilité aussi à ça. Quand je voyais des concours, je m'attachais énormément aux gens qui faisaient ces concours de chant, tu vois, je m'imaginais.
Notamment, tu sais que t'étais fan de X Factor, notamment d'une candidate de X Factor.
Une candidate et même l'émission en tant que telle, okay. Et toutes les émissions, même Nouvelle Star France, j'ai tué ça, enfin genre vraiment toutes les émissions. Et je découvrais même, je faisais ma culture musicale via en fait ces concours-là. Et je pense que je ne me rendais pas compte à quel point j'étais passionnée. Je ne le savais pas en fait, tu vois. Mais c'était déjà ça le début de ma passion en fait.
Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes que tu as aimés. Qui t'ont bouleversé,
ouais.
Notamment un et une chanson, je crois, c'est La Bohème de Charles Aznavour.
La Bohème, la Bohème, ça voulait dire on est heureux.
Évidemment, c'est un grand classique. Je vais pas laisser trop longtemps, sinon on va pleurer tous les deux. C'est quoi, quel est ton rapport avec cette chanson? Évidemment qu'il y a un énorme classique.
Ouais, c'est un grand classique, mais il faut pas toujours avoir des références hyper pointues et tout, en vrai, tu vois. Moi, dans mon cas, La Bohème, c'est un gros morceau, mais que j'ai découvert qu'à 17 ans. Enfin, que je l'ai découvert...
Tu l'as vraiment écouté.
Vraiment découvert, ouais. À 17 ans. Je pense que j'avais déjà entendu avant, mais là, j'avais vraiment découvert là. Et en fait, je diguais sur YouTube, comme d'habitude, et je tombe sur lui qui interprète La Bohème sur scène avec son mouchoir et tout. Et c'est la première fois que je le voyais. Et j'ai été choquée. de son interprétation, de son jeu qui était hyper juste. Et je me rappelle avoir pleuré quand j'ai regardé ça, vraiment premier degré, je romance pas. Et donc vraiment ça m'a frappée et je pense que ça a été aussi un déclic pour moi au niveau du français, parce qu'au début je chantais qu'en anglais, sans parler anglais. Hein. Très oui, bon, oui. On est dans une mascarade totale. mais là il m'a réconcilié avec le français à ce moment-là.
C'est-à-dire que tu chantais en anglais, tu bricolais, tu répétais des choses que tu entendais dans d'autres chansons. Ça ressemblait à quoi ?
Je faisais des karaokés, j'essayais de faire des reprises, donc j'apprenais les chansons par cœur. J'aurais pu quand même utiliser ça pour enrichir mon anglais, mais...
Mais non.
Mais non, je me suis dit après tout pour... Non, mais je veux dire par là que je comprenais pas forcément ce que je racontais, mais je kiffais, je pense, juste le moment de chanter, le fait de m'exprimer en son, tu vois, il y avait quelque chose comme qui se passait, même sans comprendre forcément ce que je disais. Et le français, ouais, je pense que j'ai eu du mal à passer cette étape parce que le français, tu mens pas, tu vois, et c'est pas une langue très mélodieuse en vrai. Donc, si t'as pas une belle voix, c'est.
Enfin, je ne chante pas, mais c'est vrai qu'on dit que l'anglais, c'est plus simple de chanter en tout cas.
Tu peux mentir.
Ouais, tu peux mentir.
Ouais,
et
je pense que tu peux mentir.
En français.
Ouais, non, okay. C'est beaucoup plus dur.
Je crois aussi que t'as commencé, toi, à écrire à 18 ans.
Ouais.
Comment tu franchis ce pas-là et tu dis, j'ai envie d'écrire des textes, des chansons?
Donc moi j'écrivais pas du tout avant, j'avais ce truc où j'avais l'impression que c'était vraiment, je te jure, réservé à un truc un peu élitiste, ouais, intellectuel, littéraire et tout. Et je rencontre en fait Gandhi, qui est une grosse source d'inspiration aussi pour moi.
On peut dire qu'un rappeur belge très important.
Tout à fait, un rappeur belge très important en Belgique, ouais, en fait, assez pionnier en fait. Et du coup je le rencontre parce que je lui ai envoyé une vidéo à moi, bref.
Ouais.
Et du coup je lui parle de ma vie. Et il me dit, mais comment ça se fait qu'avec cette vie-là, tu chantes pas des chansons à toi? En fait, je comprends pas comment ça se fait que t'écris pas. Et le fait qu'il formule ça, je te jure, ça a vraiment fait un déclic en moi. Je me suis dit, bon, essaye. Et vraiment, c'est juste venu, quoi.
Ok. Mais t'as aussi écrit pour d'autres personnes.
Yes.
Notamment, alors, Eva Queen, on le sait, Stéphie Selma et aussi Tiakola.
Yes.
Je peux pas me prononcer, ma baby fait comprendre que je peux pas renoncer. T'as fait de moi un boss comme Rosé. Je peux pas résister quand tu remplis de rosé. À la quitte la nuit quand je viens te déranger. Là les épaules sur lesquelles je peux me reposer. J'ai juste un mélange de nos deux pour foncer.
Il est trop fort. Tiakola et Wizkid, après minuit, il est trop fort, mais t'as joué un rôle.
Parce que
t'as écrit sur ce morceau-là.
Ouais, ouais.
Comment tu te retrouves à écrire pour toutes ces personnes? Parce que Eva Queen, c'est quelque chose aussi, mais notamment pour Tiakola et ces personnes-là.
Franchement, j'ai une grande chance d'avoir chopé la bonne personne qui est Gandhi.
Okay.
Parce que j'ai beaucoup profité de son réseau à lui. Et en fait, à un moment donné, le fait que j'écrive pour Eva fait que ça tombe dans les oreilles de...
Tu deviens quelqu'un qui est connu pour ça,
voilà,
en fait.
Voilà, un peu dans l'industrie, ouais, en fait, les gens commencent à savoir. Et Tiakola a ce truc où il a une grande intelligence, comme ça, au niveau de son art, tu vois, il est très généreux. Et il se dit pas, non, je dois absolument tout faire tout seul, tu vois. Il est vraiment dans la recherche de qui peut me ramener quoi. Et je me rappelle que du coup, sur ce son, il savait que ça allait être un truc un peu de love et tout. Et il s'est dit... réflexion très intéressante, je trouve. Ce serait intéressant d'avoir un texte, mais venant d'une femme.
Le point de vue d'une femme.
Le point de vue d'une femme, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là, en fait.
Ok.
Ouais.
Il y a aussi un grand changement dans ta vie, c'est quand tu quittes ton travail.
Ouais.
Ton travail alimentaire. Tu travailles dans un call center à Bruxelles, parce qu'on l'a même pas dit, mais tu es originaire de Belgique.
Ouais.
Comment tu prends cette décision-là? Quel est le déclic? Parce que c'est pas évident.
Non, non.
Et on sait que la vie d'artiste, c'est aussi quelque chose qui peut être précaire, qui est beaucoup d'insécurité. Comment tu prends cette décision?
La décision, je la prends parce que je me retrouve justement en résidence avec Eva, notamment aussi avec Damso, qui est un artiste que j'admire beaucoup.
Qui a aussi travaillé avec Eva, c'est
exactement
à ce moment-là,
ce moment-là, et je me rappelle quand je vais là-bas à la résidence, je fais genre que tout va bien et tout, mais j'arrive, il y a que des gros compos, ouais, des boomies, que des personnes vraiment qui pèsent. Et
tu dis qu'est-ce que tu fous là au début?
Mais bien sûr que je me dis ça, je fais semblant de rien, mais je me dis qu'est-ce que je fous là, et je me retrouve à écrire une chanson, deux chansons, trois chansons, et notamment il y a une chanson qui s'appelle 9h du mat sur le projet d'Eva. Quand je l'écris et quand je la pose un peu derrière le micro, je me cache un peu et je pleure, tu vois. Mais je pleure même pas de tristesse, vraiment juste j'étais extrêmement émue de me sentir talentueuse,
ouais,
de me sentir...
Donc, il y avait de la fierté, en fait.
À ma place, la fierté, ouais, en fait, de me dire, en fait, il y a des trucs que tu sais faire, et là, c'est ta place, tu te sens vivante, tu te sens heureuse, tu vois, et ça faisait depuis, je pense, 4 ans, plus encore d'autres années où je travaillais dans des restos et tout, où j'étais occupée de faire des trucs que j'aimais pas, mais la sécurité financière me tenait, surtout que je viens d'une certaine précarité, donc la perspective de retourner dans une précarité, pour moi, était traumatisante, mais à un moment donné, j'ai dit stop, tu vois, ça faisait 4 ans que j'étais là, j'ai dit, en fait, non, donne-toi une une chance. Personne ne le fera pour moi, tu vois, donc je l'ai fait.
Tu te sentais un peu schizophrène d'avoir ces deux vies entre le boulot alimentaire et la passion à côté ?
À ce moment-là, ouais, quand j'étais à la résidence, il y avait une petite forme de schizophrénie, mais surtout, j'avais la sensation de passer à côté de ma vie. Moi, j'étais en dépression. Genre, vraiment, je faisais mon call center et tout. Et puis, quand je raccrochais, je pleurais devant mon écran. Genre, c'était deep, tu vois. J'avais une boule au ventre. Je me disais. En fait, j'avais l'impression que j'allais jamais sortir de là. Et je trouvais ça injuste que je puisse pas, genre, juste prendre une année comme ça. Je me disais, OK, en fait. Ta vie et ta situation financière fait que tu peux pas t'autoriser ça. Et à un moment donné, je me suis organisée, j'ai dit, OK, en fait, test. Même si ça dure que 6 mois et tu vois que ça fonctionne pas, au moins t'auras essayé, tu vois.
Justement, je trouve qu'on écoute un morceau qui dit beaucoup de choses de toi. C'est le morceau Plastique, dans lequel tu nous emmènes dans ton univers, une chanson à la fois fragile et puissante qui joue avec les contrastes entre douceur et tension. C'est une manière de parler de ce qu'on montre, de ce qu'on cache et de la force qu'il faut pour se dévoiler. Voici Plastique, peut-être ton premier classique, peut-être.
Exact.
Que tu me passerais une cigarette. J'avoue, je fume pas, mais je peux le faire pour toi. C'est mal, j'irai sûrement en enfer. Je sais plus quoi faire pour être la plus stylée. Ce soir, j'ai enfilé une peau en plastique. Tu reconnais la silhouette. Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui. Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire. Un jour les traits de mon visage seront-ils symétriques. Je rêve de vivre d'amour et de connaître moi.
Camille MB, Plastique, extrait du projet éponyme.
France Inter. Mehdi Maizi, à la régulière.
Et nous sommes avec Camille MB. Je suis très heureux que tu sois là et je propose qu'on essaye de créer la discothèque de Camille MB. Oh, je vais te poser des questions.
Okay.
Tu vas me dire quelle chanson, quel album correspond à ça.
Okay.
Très simple. Est-ce qu'il y a une chanson que tu aurais rêvé d'écrire ?
Rêvé d'écrire ? Je pense que j'aurais rêvé d'écrire. Purée, je suis très longue à la détente.
C'est
attendez,
pas grave,
les gars.
T'inquiète, parce que tu veux trop bien faire.
Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, je veux trop chercher la chanson et tout que je me dis qui me bouleverse.
Bah, ça peut être la bohème.
Mais je peux me répéter ?
Bien sûr, tu peux.
Ouais, j'avoue alors. Je pense que j'aurais. C'est... Ah non, je pense que. Elle s'appelle comment ? Il y a 20 ans de Charles Aznavour. Non, c'est pas ça, c'est. 20 ans...
Hier encore.
Merci beaucoup. Hier encore de Charles Aznavour.
Donc c'est Aznavour en fait.
Ouais, en fait c'est lui. Je tourne autour de lui, mais ouais, c'est lui.
Est-ce que c'est la plume qui t'a peut-être le plus touché?
C'est la plume qui m'a le plus marqué. J'ai zéro doute par rapport à ça. Je suis désolée, mais quand t'écoutes Hier encore, je suis encore dans la vingtaine. Hein. Mais je suis nostalgique en écoutant ce qu'il raconte. J'ai presque envie de pleurer tellement il dépeint le truc de manière trop claire. Enfin, genre, ouais, c'est vraiment lui ma référence.
Ça tombe bien, je trouve, qu'on écoute un petit extrait d'Hier encore. Voilà, on l'a sous la main là.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent, samplé par Bad Bunny sur Monaco, évidemment. La chanson qui te fait danser.
Qui me fait danser à coup sûr, je dirais Heya de
d'Outcast. Enfin, d'André, en vrai. André qui...
Incroyable. C'est genre, en fait, juste tu mets. Si en plus tu regardes le clip avec, c'est foutu en fait. C'est juste. En fait, j'ai l'impression que c'est un son qui t'amène à te libérer. Tu vois, quand tu le vois, comment il se mouvoie et tout. Enfin, genre, il y a un truc vraiment où j'ai l'impression qu'il est hyper aligné avec lui-même. On dirait qu'il est dans sa chambre et que personne ne le voit. Donc, ça me donne envie de danser.
C'est intéressant parce que je trouve aussi que André, il fait partie des artistes-là qui sont à la croisée de plusieurs genres. Enfin, à la base, il vient clairement du rap. Ouais. Et puis après, il a fait sur cet album-là, The Love Below, des choses très différentes. Et j'ai l'impression que toi aussi, t'es un peu à la croisée de plusieurs genres. Et je lisais une interview de toi où tu disais que le discours de Théodora aux Flammes t'avait touché. Ouais, elle disait que c'était aussi pour les petites filles noires bizarres, etc. Et André, il a quelque chose comme ça d'alternatif.
Ouais.
Est-ce que toi aussi, t'as l'impression d'être une artiste finalement qui, peut-être, s'est longtemps cherchée et maintenant, on est dans un environnement où il y a peut-être plus de place pour les gens, justement, qui sont... Je mets des guillemets à ça. Bizarre, c'est ça qui correspond au canon dans lequel on a envie de les mettre à la base.
Je pense vraiment qu'on est dans cette époque-là, heureusement, sinon je ne pourrais pas exister.
Ouais.
Mais il y a ce truc où j'ai l'impression que je suis à la croisée de pas mal de choses, parce que c'est aussi ma manière... j'ai construit ma culture musicale et mon amour pour la musique de manière très aléatoire.
Mais tu n'avais pas un parcours fléché, en fait.
J'avais un parcours... Je viens d'une famille qui n'est pas du tout dans ça, et qui était même presque contre ça, tu vois, qui m'empêchait de faire des cours et tout. J'ai mis du temps à découvrir des grands groupes comme Radiohead. J'ai découvert vraiment tard et tout, tu vois, j'ai un truc vraiment très tardif, très... j'ai découvert des sons dans un MP3 que ma sœur avait volé à l'école, donc je découvre dans toutes des sphères différentes, et donc ça fait que il y a un truc où il y a un gros brassage, et j'aime le fait qu'aujourd'hui on va vers un truc de sans concession, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a moyen de trouver sa place dans ça.
Est-ce qu'il y a une chanson ou un artiste que t'écoutes en cachette? C'est un peu un plaisir coupable.
Et franchement, moi, j'assume tout. J'assume tout. Un plaisir coupable. Franchement, j'assume tout. J'ai pas de truc où. En fait, pour moi, il y a pas de mauvais goût ou de bon goût. Tu vois, genre, c'est tout se vaut. Par exemple, je sais pas. Je te promets, j'ai pas.
Un morceau qui te ramène dans ton enfance. Souvenirs, je sens que tu disais que ta maman, elle écoutait beaucoup de musique, c'était le cas de ton papa aussi. Mais est-ce que il y a des chansons comme ça qui tournaient à la maison vraiment, qui reprennent cette partie de ta vie?
Ouais. Il y a une chanson qui revient dans mon enfance, c'est une chanson de Adele.
Okay.
C'est plus l'adolescence.
Ouais.
Et c'est Hometown Glory.
Okay.
Parce que c'est la première chanson que j'ai apprise au piano quand je devais avoir 15 ans comme ça. Et j'étais absolument folle de cette chanson. Je l'ai découverte, je pense, de nouveau dans un télécrochet, quelqu'un qui l'a chanté. Enfin, t'as compris, c'est toujours le scénario avec moi. Et ça me fait toujours un truc quand je l'entends.
On a l'impression, quand tu racontes ton parcours aussi, que t'as pas forcément de formation classique, mais t'as quand même appris à jouer d'instruments.
Ouais.
Le piano, la guitare aussi.
La guitare aussi. Après, jouer, je dis toujours jouer, c'est un grand mot, parce que j'ai toujours peur que quelqu'un arrive avec une guitare. Vas-y, joue-moi un truc, je dis toujours doucement.
C'est le concept de l'émission, Camille.
Mais oui, j'ai appris tant bien que mal. Par exemple, le piano, je voulais absolument reprendre des sons. Et du coup, je retournais mon téléphone pour voir les doigts de la personne qui faisait la cover, genre sur YouTube. Je retournais, puis je faisais pas à pas, seconde après seconde. Et...
Donc t'as pas eu de prof ? C'est toi qui...
Non, j'ai pas eu de prof, malheureusement. Genre, c'est pas un truc que je glorifie pas ça.
Oui, tu ne revendiques pas ça, c'est juste...
Non, c'est juste que c'est factuel, c'est comme ça. Et puis, ça fait ma manière de composer. Genre, moi, pour composer, littéralement, je dois faire une note après une autre note, voir si ça, elle sonne bien dans ma tête. Et puis après, je continue. Genre, c'est très... c'est ma manière de faire, quoi.
En tout cas, on est avec... Camille Yembe, et on va parler entre autres de son projet Plastique. D'ailleurs, je parle de Plastique, qui est déjà sorti. J'ai oublié de poser une question de journaliste. À quand l'album ?
Mais c'est une très bonne question.
En tout cas, c'est une question que beaucoup se posent, forcément.
Bien sûr. Déjà, il faut savoir que le EP, c'était vraiment une mise en bouche, ok les gars ?
Ouais.
C'était une mise en bouche. Et là, je pense qu'il y aura déjà des prémices de l'album... très très rapidement, okay. Là à la rentrée.
Ça veut dire que toi, t'as déjà bien avancé dessus en tout
ouais,
cas.
Ouais, je suis franchement, on est peut-être à 80%, okay. 80%, on est occupé de fignoler des trucs. Et donc ouais, l'album il va arriver incessamment sous peu.
Il y a quelque chose qui semble important quand on parle de toi, c'est ton rapport à la scène,
ouais.
Au concert. Beaucoup de gens disent que t'es une vraie performeuse. Il n'y a pas longtemps, enfin, il y a, dans la deuxième émission de La Régulière, on a reçu Adèle Castillon,
okay.
Qui racontait aussi déjà qu'elle aimait bien ta musique, mais aussi que tu as fait ses premières parties à un moment.
Yes.
Jane aussi, je sais que tu as... quel rapport tu as à la scène et en quoi c'est devenu très important pour toi ? Parce que c'est presque une des premières choses qu'on dit quand,
ouais.
quand on te présente, c'est une bête de scène, etc.
Bah déjà, ça fait très plaisir. Mais en fait, le rapport que j'ai à la scène, j'ai l'impression qu'on comprend mon œuvre qu'une fois qu'on m'a vu aussi sur scène, tu vois. Il y a ce truc où moi, je pense ma musique de manière très 360 parce que j'admire, en fait, les artistes qui ont, j'appelle ça, un package. C'est-à-dire, autant ils brillent par leur musicalité, mais ils brillent par leur personnalité, par leur manière de gérer la scène, par leur image. Tu vois, il y a ce truc où il y a un truc de 360 et surtout, les gens, je pense, captent le ton, enfin, mon ton à moi, quand je suis sur scène, ma personnalité qui fait en fait partie intégrante de tout le prisme, tu vois, de mon art. Donc c'est pour ça que je mets un point d'honneur à vraiment performer. Et surtout, tous les artistes que j'admire, c'est des artistes qui sont très très forts sur scène. Pour moi, c'est ça qui est game changer. En fait, à un moment donné, tu dois passer par là, tu vois.
Le terme de package, je crois que je t'ai vu le dire dans une interview en parlant de Michael Jackson, qui pour
ouais.
toi c'était un peu peut-être l'artiste ultime qui avait tout, justement, à la fois la scène, le studio, etc. Et la danse,
et
les clips.
Ouais, c'est un artiste ultime où j'aurais pu prendre anciennement quand il s'appelait Christine de Queens,
ouais.
qui est aussi inspirée de Michael Jackson, où il y a ce truc vraiment ouais, de 360 où le clip il est fait dans le détail. Quand tu le vois sur scène, on a l'impression qu'il peut donner sa vie, qu'il pourrait mourir sur scène tellement il donne son maximum. Et puis surtout, j'aime bien le côté, tu vois, là, quand tu vois Michael Jackson, il y avait ce côté proche, mais aussi iconique, quoi. Il rendait tout iconique, tout star, et je tiens à ce truc-là. Genre, je pense que quand des gens viennent voir un concert, ils veulent voir...
Quelque chose d'iconique.
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais.
T'as cité Raheem Redcar, anciennement Christian and the Queens,
ouais.
Et je propose qu'on écoute un extrait de Paradis Perdu.
Yes.
Paradis Perdu, qui était une reprise de Christophe. Justement, t'as des influences très différentes, très diverses. Cette question, elle est dure, mais tu sais, souvent, quand t'as des jeunes artistes, on va leur demander « Est-ce que tu peux te présenter ? Quelle étiquette tu mets ?» Est-ce que toi, t'arrives quand même à te mettre sur un genre musical ? Il y a des gens qui vont te comparer à certains artistes, certaines ouais. artistes. Est-ce que ça, tu prends ces étiquettes-là ou est-ce qu'au contraire, t'as du mal avec tout ça ?
Je suis encore en plein process par rapport à cette question-là et donc j'aime quand même me définir moi-même et je pense que je fais de la pop, je dis beaucoup de la nouvelle pop.
Oui, mais ça c'est intéressant ça. Ouais. Parce que, qu'est-ce que ça signifie pour toi ?
Écoute, tu sais quoi, la première fois que j'ai entendu ce terme-là, c'était aux flammes.
Aux flammes, exactement. Mais j'allais en
parler. Je l'ai jamais dit, mais en fait...
Il y avait une flamme pour la nouvelle pop.
Eh ben, c'est de là que je l'ai pris. Je pense okay. même que même Gandhi doit me regarder de là, je ne l'ai jamais dit. Et en fait, c'est vraiment de là. Et quand j'ai entendu ce terme-là, et ce qui m'était dans ce groupe-là, je me suis reconnue, parce que ça sous-entendait un genre nouveau, qui était à l'intersection de plusieurs influences. Et du coup, ça me permet de me libérer aussi de toutes les étiquettes qu'on veut me mettre. Ouais. Et donc, moi, la nouvelle pop que moi, je fais, je sais que c'est un brassage de pas mal d'univers. Même si je cherche quand même à ramener mon son. Je pense qu'il va être plus précis sur l'album. Mais oui, je pense que je fais de la nouvelle pop. Je sais que des fois, on me met dans pop alternative. Je peux le comprendre aussi. Mais quand ça va tout péter, on pourra rien dire à part c'est de la pop. Parce que voilà.
Non, mais ça, c'est vrai. Moi, je suis très d'accord avec ça. C'est-à-dire que je trouve, moi... Oh, je vais me faire insulter pour ça, que la pop ça n'existe pas, parce qu'en fait la pop c'est un son lié à une époque particulière, c'est-à-dire que les Beatles ça a été la pop et Bad Bunny c'est la pop aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de point commun entre ça. Donc en fait à un moment c'est effectivement des niches qui grossissent et qui à un moment gagnent.
Exactement.
Et deviennent en fait la pop d'un moment,
je
d'une
suis...
époque. Donc
vraiment, je merci.
Non, mais c'est...
Là les gens ne me voient pas, je sais pas s'ils me voient.
Ouais, on
ma
fait
main.
Un high five, mais
vraiment,
on est loin.
Non,
là.
C'est trop fort ce que tu dis, parce qu'en fait ce n'est pas un genre précis.
Ouais.
C'est-à-dire que tu dois croire en ce que tu fais. Si tu as envie, moi je dis toujours ça, je fais de la musique qui se veut populaire parce que je veux qu'elle pète tout. Mais à un moment donné, si elle pète tout, bah ce sera de la pop.
Exactement.
Donc c'est ça ma vision en fait.
Et alors, dans tes influences, il y a quand même une influence qui est assez surprenante. C'est celle de Raymond Devos.
Oui.
Puisqu'on m'a demandé de faire un discours, je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle.
Raymond Devos. Donc, et c'est vrai que moi aussi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de vidéos de Raymond Devos qui reviennent sur les réseaux. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'as découvert, si tu le connaissais peut-être depuis ton enfance, mais je trouve qu'il y a une forme de nouvelle popularité de Raymond Devos. Je vois des vidéos TikTok à des millions de vues avec des sketchs qui reviennent. Toi, comment tu le découvres?
Je pense que je l'ai quand même découvert juste un peu avant TikTok. Okay. Je l'ai découvert il y a peut-être 8 ans.
Ok.
Et en fait, je l'ai découvert parce que je diguais sur des concours d'éloquence qu'il y a ici en France, en fait, que je ne vois pas en Belgique, mais qu'il y a ici en France et qu'on voit dans des... Comment on appelle ça dans les banlieues, dans les trucs et tout. Et ces concours d'éloquence-là m'inspiraient de fou parce que je me disais, je me reconnais en ces personnes et elles arrivent à pousser à un langage que je n'arrive pas à atteindre. Mais donc, ça m'inspirait. Je me disais, OK, donc c'est possible de pousser son langage. Et donc, finalement, de fil en aiguille, je tombe sur Raymond Devos. Et j'ai été choquée, déjà, parce qu'il me fait rire, certes, mais quelle classe, quel sens du rime, du mot. Et je le dis tout le temps, et je le répéterai tout le temps, pour moi, il pète vraiment, je pense, 90% des rappeurs francophones. Non, mais il faut dire la vérité. Franchement, quand t'écoutes, c'est presque un rappeur, vois. Donc voilà, je suis trop inspirée par lui. Ouais.
Je propose qu'on écoute un morceau d'un groupe que tu as cité. On va écouter un hymne des années 90, un titre qui a parlé à tous ceux qui sont déjà sentis à côté de la plaque. On l'écoute encore aujourd'hui avec la même intensité, Creep de Radiohead. Pourquoi tu aimes autant Radiohead et tu aimes autant ce morceau, j'imagine?
Je l'aime parce qu'il m'a fait comprendre qu'on pouvait être libre en musique. Vraiment, c'est juste ça, en fait. Tu vois, c'est de la musique alternative de base, mais regarde comment c'est grand public. Donc voilà.
Parfait. Radiohead, Creep, classique, évidemment.
You in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special, but I'm a creep. I'm a little. What the hell? special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh.
D'écouter le classique de Radiohead, Creep.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et nous sommes ce soir avec Camille Mbé. Et Camille, comme chaque soir, on prend quelques minutes pour parler de ce qui fait l'actu pop. Voilà. Alors musique, série, cinéma, tout ce qui nous fait vibrer. Et ce jeudi, trois gros sujets au programme. Les MTV VMA 2025 qui viennent de se dérouler. Le retour très attendu de The Morning Show sur Apple TV. Et la nouvelle série de Sylvester Stallone. On commence avec les MTV VMA. Je sais pas si t'as suivi ou pas. Ce qui s'est passé.
En fait, j'ai...
Non.
Très, très flou.
Okay, bah
en
écoute,
fait, via les stories.
Bah écoute, je te fais un rapide
Merci.
Récap. C'était dimanche soir donc à New York. Et comme souvent, la cérémonie a tenu ses promesses entre performance, discours et surprise. Lady Gaga a confirmé qu'elle restait une figure incontournable de la pop. Elle repart avec 4 trophées, dont l'artiste de l'année et la meilleure collaboration pour Die With A Smile avec Bruno Mars. So I'ma love you every night. Ariana Grande n'est pas en reste avec le clip de l'année pour Brighter Days Ahead. Et puis, moment fort, Sabrina Carpenter qui cartonne en ce moment a remporté l'album de l'année pour Short and Sweet. Elle en a profité pour livrer un discours engagé en faveur des droits trans très commentés depuis. Enfin, deux grands moments d'émotion, Mariah Carey qui a reçu la Video Vanguard Award pour l'ensemble de sa carrière et Busta Rhymes honoré pour son influence. Bref, une cérémonie où les icônes féminines et les figures historiques se sont croisées pour rappeler que la pop reste un spectacle total. Mariah Carey, influence ou pas plus que ça ? Moi, ta génération.
All I Want For Christmas, voilà.
Évidemment, le morceau qui lui rapporte je ne sais combien de millions
exactement,
chaque année.
Exactement, je te jure, je la jalouse.
C'est ça le but d'avoir un morceau comme ça, juste un.
Franchement, t'es à l'aise.
On continue avec The Morning Show, saison 4, la série avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon revient le 17 septembre sur Apple TV+. 10 nouveaux épisodes sont attendus, diffusés chaque semaine.
Tout le monde devrait avoir droit à une autre chance. Peut-être que c'est une chance pour moi pour tout arranger.
Sick of all these people talking.
On redémarre à zéro. Une nouvelle entreprise. Une culture différente.
On a promis un vrai changement. On veut mettre en avant les sujets auxquels on tenait.
Il faut que les gens sentent qu'à UBN, on est les premiers sur le coup. Et qu'ils auront la bonne info.
Une jolie idée. Mais c'est pas sexy.
Cette fois, l'action se déroule au printemps 2024, juste après la fusion des chaînes UBA et NBN. Alex Levy, le personnage de Jennifer Aniston, prend encore plus de responsabilités, tandis que Bradley, incarné par Reese Witherspoon, doit assumer les conséquences de ses choix, notamment un gros secret lié aux événements du 6 janvier à Washington. La série aborde des thèmes brûlants, désinformation, deepfake, lutte de pouvoir, transparence médiatique, mais aussi la place des femmes dans un univers toujours plus impitoyable. Et il y a une French touch cette saison, puisque Marion Cotillard rejoint le casting dans le rôle d'une nouvelle actionnaire puissante qui va rebattre les cartes. Bref, nouvelle saison de Morning Show à venir donc, et une nouvelle saison également de Tulsa King sur Paramount Plus à partir du 21 septembre. On retrouve Sylvester Stallone dans son rôle de Dwight Manfredi, ce mafieux new-yorkais exilé à Tulsa pour y construire son empire.
Tout le monde dort ! Margaret !
C'est l'heure de partager.
Les loups attendent derrière nos portes.
Alors qu'est-ce qu'on va faire ?
Je vais lui casser la mâchoire en 6 morceaux.
Qui a dit que tu n'étais pas romantique ?
Dans une famille, on laisse jamais personne derrière. C'est peut-être la meilleure opportunité de ma vie, et il y a des risques.
Est-ce que c'est un fantôme ?
Je te parie que personne ici n'a vu ce twist arriver.
Cette saison 3 s'annonce explosive, Dwight est plus puissant que jamais, mais ses ennemis aussi. Il va devoir affronter les Dunmeyer, une famille influente et redoutable qui va lui compliquer la vie autant sur le plan criminel que personnel. Trahison, alliance, règlement de compte, le programme s'annonce intense avec un Stallone toujours charismatique dans un rôle qui lui colle désormais à la peau. 10 épisodes au total, de quoi tenir les fans en haleine jusqu'à la fin de l'automne. Nous sommes avec Camille Yembe qui a sorti, on le rappelle, le projet Plastique avant l'été, l'album à venir. Est-ce que maintenant qu'on a un projet, on peut le dire, qui a un succès, est-ce que tu ressens une pression aujourd'hui ? Et ça boucle un peu peut-être avec la première question où là tu es dans un moment un peu particulier dans la carrière et là tu sens aussi que les regards sont braqués sur toi. Comment tu vis ça ?
Non, je suis pas encore dans la pression. Okay. Je suis pas encore dans la pression, pas assez de succès. J'aimerais avoir suffisamment de succès pour avoir la pression, j'attends que ça.
Tu penses que ça vient avec le succès ? Ça peut aussi venir avec les attentes que les gens ont sur toi, les projections qu'ils font.
Franchement,
sur toi.
La seule pression que j'ai, c'est une pression que je me mets moi-même, en fait, parce que j'ai énormément d'attentes envers moi-même, ouais. Et donc ça fait que je me mets une grosse pression, mais à part ça, j'ai pas trop encore cette pression-là des gens, et puis surtout, j'essaie de pas tomber dans le piège de... Qu'est-ce que les gens aimeraient que je fasse et tout, tu vois. Je pense que les gens kiffent le fait de que je les surprenne. Donc je reste dans mon truc, dans mon train, dans ma vision et puis tout. Hein.
Quand tu dis que t'as énormément d'attentes envers toi-même, ça veut dire que toi tu te vois aller tout en haut. En tout cas, t'as envie de ça. T'as envie d'être une pop star. On parlait justement, tu sais, de Lady Gaga, de Sabrina Carpenter, etc. Est-ce que c'est ton ambition ?
Oui. Une question de réponse. Non,
vraiment, bah ouais, j'aime bien.
Oui,
c'est clair.
Non, franchement, c'est mon ambition. J'aimerais vraiment être genre une artiste francophone de genre de référence, pouvoir faire des trucs à l'international et tout. Genre vraiment, je vise très loin. Après, non, il y a pas de après. Ça va se passer.
C'est intéressant parce que tu parles de ça parce que j'étais en train de me dire artiste international, artiste francophone qui perce à l'international et en fait. Sur les années, on va dire, récentes, j'en vois quelques-uns. Et qui sont belges, exactement.
C'est du belge.
Je parle évidemment de Stromae, Angèle, ouais. Qui a aussi eu, notamment, évidemment, le morceau avec Dua Lipa, mais qui a une vraie carrière internationale. C'est intéressant, quand même, que vous ayez cette touche-là, en fait.
Ouais, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas quelles étoiles brillent sur le ciel de la Belgique, ouais. Mais en tout cas, il y a un truc qui se passe. Je sais pas si c'est une plus grande liberté, Franchement, j'en ai aucune idée. En tout cas, j'espère que je suis le même chemin qu'eux, tu vois. Mais...
Tout à l'heure, évidemment, tu as mentionné Gandhi, qui est un rappeur belge, ouais. Et qui a beaucoup œuvré localement. Et c'est vrai qu'il fait partie d'une génération qui a fait beaucoup de choses, mais qui n'a pas bénéficié de la même exposition que la génération, on va dire, qui a percé vers 2014, 2015, etc. Mmh, évidemment, tu as fait Damso, les Hamza, ouais, etc. Ouais. Comment... est-ce que toi, en tout cas, tu penses qu'avoir bénéficié, toi et les artistes belges de ta génération, de cette exposition-là autour de Bruxelles, qu'il n'y avait pas malheureusement dans
sûr.
Le passé
ouais. Bien sûr, je pense que, peut-être d'ailleurs que ces artistes-là comme Stromae, je pense d'abord à Stromae qui a percé avant Angèle, il y avait peut-être un petit côté, je ne sais pas moi, revanchard de se dire on veut exister aussi et donc ça a poussé. Et puis on a la chance d'être dans une génération où tout est ancré, on connaît les enjeux, on sait quels outils on peut utiliser. Et la génération est de Gandhi, donc la génération juste avant. C'est triste à dire, moi j'appelle cette génération-là la génération un peu intercalaire. Mmh. C'est triste, mais en fait, où ils sont dans... Ils étaient ni dans un monde, ni dans l'autre, tu vois. Et ouais, nous, on a la chance. Ils ont pavé le chemin pour nous, tu vois. Ouais. Ils ont pavé le chemin. Et là encore, tu vois, là, moi, je suis avec Gandhi, je suis beaucoup accompagnée par lui. Et il a pavé le chemin pour moi. Et encore maintenant, tu vois, il sait me donner les points d'attention, me dire, OK, là, il y a un danger. Fais plutôt comme si. Et il a ce truc aussi, cette approche, je pense, de se dire, c'est l'artiste qui sait ce qui va fonctionner.
Ouais,
tu
ouais.
vois, il a une approche très smart par rapport à ça.
Ça veut dire que c'est toi qui a le contrôle sur la musique et que lui, son rôle, il est ailleurs, c'est ça que tu veux dire, c'est que,
exactement. Ouais. Mais je trouve ça très intelligent dans ouais. le sens où il me le dit par après. Des fois, il me dit, ah, tu vois, là, on a mené ça au bout, on a fait ton projet, là, par exemple, j'ai fait mes capsules. Voilà, mes capsules, c'est mes idées, j'ai envie de faire des capsules avec des filles et tout. Des fois, il peut être dubitatif, mais il va me le dire qu'après coup, il va dire, écoute, là, moi, j'aurais peut-être pas forcément fait ça, mais je me suis dit, c'est toi qui connais ta vérité. Mmh. Il peut pas connaître ma vérité à ma place, donc il va me laisser faire mes trucs et en se disant que c'est moi qui est la recette magique. Tu vois. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai de la chance d'être bien accompagné, quoi.
Juste avant que, quand t'es arrivé, tu sais, je me permets de révéler les coulisses.
Vas-y.
Mais, en plus, on a parlé sur tes réseaux, mais t'es en train de commencer à faire un vlog.
Ouais.
On peut le dire. Et ça me pose une question, tu sais, parce que je crois qu'elle est aussi intéressante et j'en parlais avec d'autres invités. Comment on organise en tout cas la vie d'à la fois artiste et un peu aussi créatrice de contenu. Ouais. Je vais pas dire influenceuse parce que c'est pas ton travail, ouais. c'est pas ce qui te fait gagner ta vie. Mais mine de rien, c'est particulier d'avoir beaucoup de followers, d'être suivi par des gens qui t'envoient des messages, ouais. qui te like. C'est aussi une pression psychologique quelque part, en tout cas, d'être parfois soumis un peu au like des gens, etc. Comment tu gères ce nouvel aspect de ta vie aussi?
J'avoue, c'est spécial, ça peut mettre une pression comme tu dis, ouais. tu vois, parce que en fait, on n'est pas calibré pour ça. De base, je fais de la musique et sous.
Oui.
Et là, tu te retrouves avec des communautés, comme on appelle ça, ouais. des communautés. Et je t'avoue que je suis encore occupée de faire un peu un jeu d'équilibre entre ce que moi, je suis capable de donner aussi en termes d'énergie et d'effort humain et le respect de mon intimité et de ce que je veux donner sur les réseaux. Donc, je sais pas, il y a un équilibre difficile à trouver. Et puis, je pense que parfois aussi, on est influencé parce qu'on voit d'autres artistes gérer leur communauté d'une certaine manière, ouais. tu vois. Et on se dit, OK, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. Puis des fois, tu as la pression aussi des followers. Tu te dis peut-être que...
Ils vont m'oublier.
Exactement. Si je communique pas pendant X temps, ils vont m'oublier et tout. Mais... Encore une fois, franchement, j'ai la chance d'être quand même posée et de me dire que je dois les éduquer, tu vois. Et surtout maintenant, parce que moi, j'ai une petite communauté. Donc en vrai, j'ai pas envie de tomber dans ce piège-là maintenant. J'ai envie d'avoir un rythme qui me correspond. Après, j'ai ce truc où j'ai envie quand même d'être proche de ma communauté, de les emmener avec moi. Ouais.
C'est un équilibre à trouver.
Un équilibre.
Ça me fait penser à un sketch de Aziz Ansari, qui est un humoriste américain et qui a un spectacle qui est sur Netflix. Il parle aussi de tous ces artistes-là qui parfois sont tiraillés entre être artiste et aussi faire plein de choses sur les réseaux et puis vendre des produits, etc. Mmh. Il parle de Drake, il vend un jour un parfum, un jour autre chose. Et un jour, il rencontre Frank Ocean dans, je sais pas, une soirée. Il lui dit, mais Frank, comment t'arrives à faire aussi peu de choses? Et apparemment, Frank Ocean lui aurait répondu, écoute, faut juste accepter un moment de gagner moins d'argent. C'est tout.
Tu
te concentres sur la musique et tu fais un peu moins d'argent que les autres, mais tu te focuses sur l'essentiel. Mais je me dis que c'est pas évident.
Non.
On va écouter un morceau de toi.
Okay.
Coup de soleil.
Yes.
Est-ce que tu peux lancer ce morceau, le présenter?
Alors, on va lancer tout de suite Coup de soleil, un morceau qui parle d'amour.
Ouais. Let's go. Elle fait ça mieux que moi. Camille Mbé, coup de soleil.
Quelques coups de soleil sur mes pommettes en été. Quelques coups de soleil
Les photos, les likes, le mauvais tout, tout est dans le tiroir. L'hiver s'installe dans tout l'appart, sur nos visages. Est-ce que nous deux, ça se sépare? J'aimerais qu'on l'attrape.
Camille Mbé, coup de soleil. Bon morceau.
Mehdi Maizi sur France Inter.
C'est l'heure des recommandations.
Yes.
Je t'ai demandé des recommandations. Tu m'en as envoyé beaucoup. Non mais c'est bien, t'as joué le jeu. C'est un plaisir. Des fois on en reçoit une et tout. Là, t'as grave joué le jeu. Et la première reco que tu nous as envoyée, c'est la série Snowfall.
You were supposed to be out.
Out. I built an empire. Starting back in zero. That ain't gonna happen.
Swallow your pride and make peace with your family. Because this isn't good for anyone.
Pourquoi Snowfall?
Parce que je suis en plein dedans.
Ouais, c'est ça que tu regardes en ce moment.
Je suis en plein dedans c'est une série que je trouve hyper intelligente, tu vois. Ça parle comme ça, vous savez, ça parle d'un gars en fait qui s'appelle Franklin Saint,
ouais.
Et qui deal de la drogue. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que ce qu'ils mettent pas du tout en avant-plan, mais qui est quand même dit subtilement, c'est comment est-ce qu'il en arrive là, en fait. Qu'en fait, c'est pas juste il veut dealer de la drogue, c'est qu'il se retrouve dans un contexte social, une certaine précarité qui fait qu'il en arrive là. Et du coup, ouais, je trouve que la série, elle est faite de manière très intelligente et ouais, elle est trop bien. Elle est trop bien.
Est-ce que t'aimes bien ce genre de série? Tu sais, avec des histoires un peu de... mafieux, de
Top gangster. Boy, Amy.
Waouh, tu fais bien l'accent.
Ouais, je sais. Pourtant, je parle pas anglais.
Je suis fasciné. Ouais, est-ce que tu parles maintenant anglais ou pas?
Non, je me débrouille, tu vois, mais je peux pas dire que je parle. Je me débrouille.
Tu pourrais pas faire un album en anglais?
Faut pas me défier. Pas
c'est
encore.
C'est pas un défi, c'est une question. Moi, je te défie pas. Moi, j'ai compris que. Non, je joue pas à ça avec toi.
La go qui est hyper virulente. Faut pas me défier. Non, mais non, pas encore.
Ok. Autre reco, et pour le coup, ça chante en anglais, Mac G avec l'album Two Star and a Dream. Police. Déjà, j'ai dit Mac G, alors que c'est Mac G.
Ouais, mais c'est pas grave.
Déjà,
c'est pas grave. Voilà, tu parles de mon anglais, mais du coup.
Moi, mon anglais, on sait qu'il est catastrophique. Non, moi, je parle anglais, mais j'ai un accent horrible. L'inverse de toi, en fait.
Ouais, finalement, peut-être qu'ensemble.
Peut-être qu'on peut éventuellement donner quelque chose. Qu'est-ce qui te plaît dans cet artiste, cet album?
Trop de choses, mais en fait, ce qui me plaît, c'est qu'il est. On sent que c'est lui qui compose déjà tout, enfin qui produit tout. T'as l'impression de rentrer dans sa tête. Tu sais quoi, il me fait le même effet que quand j'ai découvert Radiohead,
okay.
Et Thom Yorke en fait.
Ouais,
il
okay.
fait vraiment le même effet. Ouais, il y a un truc hyper hyper savant, mais à la fois hyper comestible aussi. Genre tu vois, il y a les deux en même temps. Tu
oui,
vois,
c'est accessible.
C'est accessible.
C'est pointu sans être.
Oui, sans pour autant se dire ouais putain c'est vraiment un télo, on comprend pas. Non, tu vois c'est pointu, mais ça arrive quand même à ton cœur. Et ouais, je le trouve. Je sais même pas si je peux dire, je peux pas dire peut-être révolutionnaire d'une certaine manière. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va chercher des sons qu'on n'entend pas, qui, tu vois. Mmh. Et voilà, il est trop fort. Et d'ailleurs, il est sur les plus gros. Enfin,
oui,
voilà.
Oui. Tu parlais de composition. Toi, ouais. Tu composes aussi.
Ouais.
Est-ce que t'es encore attaché à l'idée de composer sur tes projets? Enfin, tu veux toujours garder la main aussi là-dessus?
Sans forcer. Okay. En fait, je suis pour, mais sans forcer. C'est-à-dire que je suis pas, je veux pas absolument tout composer. Non, bah en fait, si à un moment donné, je suis dans mon salon, j'ai tapé un truc au piano, ça fonctionne, etc., et je le sens, bah ça va être une compo. Mais je n'estime pas que j'ai que je sois la meilleure en compo. Et du coup, c'est pas ce que je vais rechercher. J'aime m'accompagner des meilleurs. Et donc, je suis accompagnée des meilleurs à ce niveau-là, en compo, en production. Et des fois, bah, comme dans mon prochain album, il y a quelques morceaux où c'est moi qui les ai composés. Mais c'est pas du tout une priorité que je fais, tu vois. Et,
question, parce que t'as aussi écrit pour d'autres, j'imagine que t'as aussi trouvé des mélodies pour d'autres. Est-ce que tu peux être ouverte à l'idée que des gens viennent aussi écrire pour toi, trouver des mélodies pour toi, ou vous touchez pas à ça?
Ah ouais. Bah, tu sais quoi, je te jure, je suis hyper ouverte.
Ok.
C'est juste que...
Ils sont pas aussi forts que toi.
C'est juste que ça se voit pas. Mais, non, mais on doit connaître ses forces. Et moi, je sais que l'une de mes forces, c'est mon flow, mes mélodies, etc. C'est ça qui fait qu'on reconnaît ma patte, on reconnaît ma griffe. Après, je suis hyper ouverte. En fait, moi, si à un moment donné, on est au studio, t'as un gars qui est là, il fait une mélodie de fou, mais je vais pas aller contre, en fait, l'évidence de la musique. Je vais le prendre avec, je vais dire ok, mais tu vois ce que je veux dire, j'ai pas peur de ce mélange-là, je sais qu'au final je continuerai à écrire la majorité de mes chansons, mais je suis pour l'échange en vrai, tu vois.
Autre recommandation, elle n'est pas sonore, c'est un livre, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Okay. Pourquoi ce livre?
Pourquoi ce livre? Franchement, c'est encore une fois, c'est un gros classique. Nous, on est dans les gros classiques.
C'est bien, mais oui.
Et en fait, ce livre-là m'a été conseillé à un moment très clé. Je venais, je pense, de me faire virer de l'école. Oui, de l'école supérieure. C'était avant de travailler chez Primark et puis dans mon call center. Et du coup, j'étais perdue. J'étais dans une situation très précaire. Et je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai l'impression que tout me tombait dessus, que j'allais jamais y arriver. Et donc, on m'a conseillé ce livre, je l'ai lu. Il m'a énormément inspirée. J'ai pas eu de déclic à ce moment-là, mais en tout cas, il m'a fait croire qu'il y avait un possible destin heureux. Donc, rien que pour ça, c'est ma reco.
Est-ce qu'il y a aussi des artistes, tu sais, qui t'ont peut-être, auxquels tu t'es identifié, qui t'ont donné de la force, justement, à travers leur musique, à travers leurs chansons? Est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu t'es accroché à ça, ou c'est... pas forcément d'ailleurs.
Où je me suis accrochée à ça en me disant que pour leur parcours et tout, qui m'ont inspirée pour leur parcours. Y a des parcours comme par exemple, bon, c'est un gros, mais par exemple le parcours de Stromae, moi il m'a beaucoup inspirée, mais plus le début en fait. Tu vois, quand je le vois faire ses leçons dans sa chambre.
Pour les personnes qui ne le savent pas, à la base, effectivement, il fait des vidéos sur internet, c'est un mec du rap qui a d'ailleurs produit.
Ça, mais à la base, c'est du rap.
Exactement, c'est du rap. Il a même produit un album de Kerry James. Enfin, les gens, avant qu'il devienne une énorme pop star, il vient vraiment de ça. Ouais.
Exactement, tu vois. Et moi, j'ai un peu farfouillé, j'ai cherché un peu sur YouTube et tout, et je le vois dans des studios, un peu dans un coin, machin, etc. Et je me dis, waouh, c'est fou, la persévérance, le fait qu'il vienne du rap, puis après, à un moment donné, il a ce truc de se décomplexer, de se dire en fait je me lance dans un truc un peu plus chanté, en sachant qu'il allait se faire moquer par rapport à ça. Il l'a fait quand même, et il le fait, et ça fonctionne pas directement non plus. C'est-à-dire que lui, il est dans une conviction profonde, et je pense qu'il est vraiment dans un mantra, dans une mentalité de se dire j'y crois jusqu'à ce que les autres y croient aussi, tu vois. Et ça, je pense, ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée, et c'est vraiment la mentalité que je mets dans ma musique aussi. Je me dis j'y crois jusqu'à ce que les gens y croient aussi, tu vois.
Très bien. Camille, c'est l'heure...
De dire au revoir ?
Non !
Ah !
De la question qui tue.
Ok, j'ai peur.
C'est exactement les faire chercher. Ah. Et tu vas voir,
oh my God.
Faut pas avoir si peur que ça. On s'est dit qu'il y a un album qui est arrivé.
Mm-hmm.
Moi, je suis obligé de faire mon travail, d'aller chercher des infos. Je suis obligé. T'es pas obligé de me répondre. T'es pas obligé de me répondre. Okay, non, t'inquiète pas, personne t'a trahi. Personne t'a trahi, on m'a rien envoyé, justement. Moi, j'essaye juste de... Voilà, si tu veux pas me répondre, tu me réponds pas, évidemment. Okay. Sur l'album qui arrive, est-ce qu'il y aura des collaborations, des feats?
Ça, c'est vraiment la question.
Ah oui.
A priori... Est-ce que je réponds ou je réponds pas? Attends, je regarde mes références.
On te regarde là-bas.
Je réponds ou je réponds pas? Aïe, 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 il y a eu des grands noms ici derrière.
Il y a eu des grands noms.
Écoute, Mehdi, je t'aime d'amour, mais
tu ne me répondras pas.
Mais je ne te répondrai pas.
Très bien, je l'accepte. Mais je fais mon...
Ton cœur reste ouvert.
Je fais mon travail, je suis obligé de poser la question.
Bien sûr.
Parce que les gens te le demandent beaucoup. Parce que tu as fait quelques collaborations, je pense notamment à un très bon morceau sur l'album de Moi MMZ, qui t'avait invité.
Ouais.
Donc les gens ont envie de t'entendre aussi, de croiser ton univers avec d'autres personnes.
Mais oui, c'est une envie partagée, il faudra attendre l'album et être attentif.
Très bien. On peut écouter un extrait de Moi MMZ, enfin votre featuring.
Il fait pleine nuit à la fenêtre, la pluie frappe la ville. Je me dis que c'était peut-être mieux hier, mais hier je disais ça aussi.
Comment ne pas partir en coup si moi je suis parti de rien.
Très bon album d'air de Mohamed MZ.
Yes.
Camille, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Là, tu sors d'une tournée de festival.
Ouais.
T'as encore des dates qui arrivent ou c'est on est un peu là.
J'ai quelques dates. J'ai surtout ma première date le 17 octobre à Bruxelles, première date à mon nom. Et surtout, faut rester vraiment attentif parce qu'il y a des beaux trucs qui arrivent.
Il y a quelque chose qui arrive.
Ouais.
J'ai pas d'infos, mais je sens qu'il y a quelque chose.
Tu sens que voilà. Bon.
Très bien. Merci beaucoup, Camille. C'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Vraiment. Merci à toutes les personnes qui ont préparé cette émission. Alexia Lacour, Redouane Tella. Une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Nicolas Delmas. Merci aux équipes web et vidéo. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.